Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 22 Khordad, 1400 du calendrier iranien, 12 juin 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire sur les dernières évolutions des négociations nucléaires à Vienne. Le terrorisme économique contre 82 millions d'Iraniens est un crime contre l'humanité, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. À une semaine des élections présidentielles iraniennes, les candidats tentent de séduire les électeurs. Et le mouvement yéménite Ansar Allah dénonce les sanctions américaines. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les sanctions de Washington contre la République islamique d'Iran, qui sont maintenues en pleine crise sanitaire du COVID-19, constitue un crime contre l'humanité. Abbas Araghchi, s'exprimant via Twitter, a également déclaré que Washington, avec son terrorisme économique, cherche à infliger un maximum de souffrance aux Iraniens. Selon le diplomate de haut rang qui négocie à Vienne avec les 4+1 signataires restants de l'accord nucléaire de 2015, il est à déplorer que même le départ de l'ancien président américain Donald Trump n'a pas mis fin à ces sanctions illégales et barbares. Les remarques sont intervenues alors que les États-Unis n'ont pas encore levé les sanctions imposées à l'Iran par Donald Trump. Washington a même refusé de lever les sanctions sur l'importation de matériel médical et de médicaments à un moment où l'Iran, comme la plupart des autres pays, est touché par la pandémie mortelle et destructive de COVID-19. En Iran, à une semaine des élections présidentielles, les candidats tentent de séduire les électeurs pour remporter la course au plus haut poste exécutif du pays. Le candidat présidentiel, Alireza Arzakhani, a déclaré que les États-Unis pouvaient revenir à l'accord nucléaire 2015 après avoir mis fin à toutes les sanctions et offert des garanties juridiques et une vérification. M. Zakani a déclaré que son futur gouvernement examinerait les potentialités des pays de l'Est comme la Russie et la Chine. Il a noté qu'une interaction logique avec l'Occident devrait également être envisagée. Pour lui, l'interaction avec Washington n'a aucun sens tant qu'il a l'intention de faire plier la nation iranienne. Condamnant la normalisation des relations avec le régime israélien, le candidat à la 13e élection présidentielle a déclaré « Je voudrais dire très clairement que la logique de l'Iran face au régime sioniste est que le peuple palestinien doit organiser lui-même les élections. » Le mouvement populaire yéménite Ansar Allah a dénoncé les nouvelles sanctions américaines contre ce groupe, qualifiant l'acte de nouveau crime contre le peuple yéménite. Réagissant aux sanctions américaines, Mohammad Ali al-Houssi, membre du Conseil politique suprême du Yémen, a déclaré que les États-Unis placent l'option de la guerre au premier rang de leurs priorités tout en prétendant être pour la paix. Mohammad Ali al-Houssi a déclaré qu'imposer des sanctions pour arracher une paix intéressée ne mènera nulle part. Il a souligné que les nouvelles mesures vont dans le cadre d'un plan de pression systématique qui a pris pour cible l'économie du Yémen, manière de faire plier le pays devant les velléités des agresseurs. Les États-Unis ont annoncé jeudi leurs nouvelles sanctions contre Ansar Allah. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis continueraient d'exercer des pressions sur le mouvement populaire yéménite pour qu'il mette fin à son offensive contre Ma'arib. Le Croissant Rouge palestinien déplore la mort d'un adolescent tué par des troupes israéliennes lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée. Mohamed Saïd, 15 ans, a été tué dans le village de Beïta, au sud de Naplouse. Au moins 110 autres manifestants ont également été blessés lorsque les forces de répression israéliennes ont tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes contre les Palestiniens. Les manifestants s'étaient rassemblés à Beïta pour exprimer leur colère contre la construction de nouvelles unités de colons près du village. Ils ont mis le feu aux pneus et lancé des pierres sur les militaires israéliens. Les tensions sont vives dans les territoires occupés depuis des mois en réponse à la poursuite des activités de colonisation par Israël et à l'expulsion prévue par le régime des familles palestiniennes de leurs maisons au profit des colons. Toutes les colonies israéliennes sont considérées comme illégales en vertu du droit international. Une experte des Nations Unies a appelé les Émirats Arabes Unis à libérer immédiatement 5 militantes des droits de l'homme détenues. Marie Mailer, qui est la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, déplorant les conditions de détention de ces prisonniers, a qualifié d'excessivement sévère leur peine. Les 5 militants font partie d'un groupe de 94 avocats, défenseurs des droits de l'homme et des universitaires qui ont été condamnés à 10 ans de prison en juillet 2013 pour avoir prétendument comploté contre le régime émirati en vue de le renverser. Elle s'est dit préoccupée par le fait qu'ils ont été soumis à la torture en étant placés à l'isolement pendant de longues périodes. Selon la rapporteuse des Nations Unies, leur droit à un procès équitable aurait également été violé car ils se sont vus refuser à avoir accès à un avocat ou, dans le cas optimiste, cet accès était très limité. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme a souligné qu'ils n'auraient jamais dû être détenus pour avoir exercé légitimement leur liberté. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique consacré aux dernières évolutions relatives au pourparlers nucléaire à Vienne. L'ambassadeur d'Iran à l'Organisation des Nations Unies a rejeté l'affirmation américaine d'un changement de politique à l'égard de l'accord nucléaire de 2015, affirmant que Washington poursuivait toujours la campagne dite de pression maximale contre Téhéran. S'exprimant vendredi devant l'Assemblée générale des Nations Unies, Majid Tartaravanchi s'est plaint que le terrorisme économique des États-Unis contre la nation iranienne a entravé l'importation de médicaments dans le pays. Tartaravanchi a déclaré « Bien que les pourparlers en cours à Vienne soient la première étape pour évaluer l'exactitude de la véritable volonté politique des États-Unis de revenir à l'accord nucléaire, le test principal et réel sera après vérification lorsqu'il sera prouvé que l'Amérique a vraiment changé de cap, abandonné sa politique ratée de pression maximale et a mis fin à son terrorisme économique contre l'Iran. La République islamique d'Iran a refusé de céder à la pression du gouvernement de Donald Trump et a adopté une politique de résistance maximale qui comprend des mesures économiques pour surmonter les sanctions. La nouvelle administration américaine, dirigée par le président Joe Biden, dit qu'elle veut réparer les torts de Trump et rejoindre l'accord, mais elle montre une propension primordiale à maintenir certaines des sanctions comme outil de pression. Téhéran insiste sur le fait que toutes les sanctions doivent d'abord être levées de manière véritable avant que la République islamique d'Iran n'annule ses mesures coercitives. Depuis avril, des émissaires de l'Iran et du groupe des pays 4 plus 1, Grande-Bretagne, France, Russie, Chine et l'Allemagne, ont tenu des pourparlers à Vienne dans le but de lever les sanctions, de réactiver l'accord nucléaire et de ramener les États-Unis à la conformité. Les États-Unis ont envoyé une délégation à Vienne, mais il ne participe pas directement aux discussions de la commission mixte car Washington ne fait plus partie de l'accord. Il a cependant eu des entretiens séparés avec les autres parties de l'accord nucléaire de 2015. Vendredi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé qu'un nouveau cycle de pourparlers de Vienne reprendrait samedi. Les participants devraient poursuivre les consultations sur le retour éventuel des États-Unis à l'accord nucléaire et assurer la mise en œuvre pleine et efficace de cet accord, a déclaré le principal négociateur iranien.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va en fait aborder avec deux spécialistes de questions internationales ce qui se passe actuellement en Irak, très particulièrement en ce qui concerne ces attaques contre les forces américaines en Irak, des attaques qui se sont en fait multipliées ces derniers temps. Si vous avez suivi l'actualité sur l'Irak, vous vous en êtes rendu compte que ces derniers temps, il y avait des attaques contre des convois logistiques américains, des convois logistiques américains sur le territoire irakien. Également, il y avait des attaques qui étaient menées contre des convois de militaires américains qui, en fait, arrivaient en Irak en provenance de la Syrie. Mais tout récemment, il y a un phénomène qui a suscité un mouvement de panique chez les autorités américaines de ces attaques aux drones contre, si vous voulez, des bases de US, des bases qui abritent des forces américaines en Irak. Et ce mouvement de panique est tellement, si vous voulez, immense que les États-Unis ont annoncé d'offrir une récompense de 3 millions de dollars à quiconque, en fait, donnerait des révélations, des informations sur, en fait, les auteurs de ces attaques aux drones contre les forces américaines stationnées en Irak. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission M. Philippe Hugon, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Paris. M. Hugon, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Et bonjour.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien, analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Luc Michel. M. Michel, bonjour, merci et beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, cher Abad. Bonjour à mon collègue Philippe Hugon. Bonjour à toute l'équipe et à vos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude.
Merci beaucoup. De Luc Michel, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle analyse portez-vous en fait sur ce recours, si vous voulez, aux drones pour attaquer les forces américaines stationnées en Irak, s'il vous plaît?
Écoutez, la guerre des drones, elle est en train de changer complètement le visage de la guerre, pas seulement d'ailleurs en Irak, mais également en Palestine, au Liban, ou encore au Yémen. Au moment où l'OTAN, le Quad et l'OTAN du Proche-Orient sont en train de se redéployer, il manifeste une très grande préoccupation de cette guerre des drones. On avait le général Mackenzie, commandant du CENTCOM, il y a quelques semaines, qui affirmait que les États-Unis avaient perdu la supériorité aérienne au-dessus de la mer Rouge. Et c'est ce qu'on constate. Il y a déjà eu un précédent, c'est la dernière guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui a vu le déploiement de l'armée et des mercenaires turcs, et dans lequel les drones ont complètement changé le visage de la guerre. Il faut se rappeler que des États qui jusqu'alors ne pouvaient pas rivaliser avec la grande puissance impérialiste qu'est les États-Unis produisent maintenant des drones à meilleur marché que les Occidentaux. Ce sont notamment la Turquie. La Turquie qui a confié le secteur de la production des drones à un gendre d'Erdogan, et ce sont l'Iran. L'Iran qui d'ailleurs équipe tout l'axe de la résistance, et en particulier les milices pro-iraniennes du Hezbollah, de Hach el-Shalabi et d'Al-Sarallah, avec ses drones. Aujourd'hui, la domination américaine, qui était une domination aérienne, puisqu'il n'y a jamais eu de domination au sol en Irak, elle semble définitivement terminée.
Et Philippe Hugon, est-ce également de votre avis désormais en fait la domination aérienne américaine dans la région, très particulièrement en Irak, en fait est remise en cause?
Ah oui, moi je pense que la possibilité qu'ont maintenant les Irakiens de pouvoir utiliser des drones va changer la donne. Pourquoi ? Eh bien, parce que les drones ont beaucoup d'avantages. D'abord, ce sont des appareils petits, donc d'un poids limité, pouvant supporter un nombre d'explosifs importants, ou du moins une quantité d'explosifs importants. La deuxième chose, c'est qu'ils sont difficilement détectables. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont difficilement abattables, de par leur taille, bien sûr, mais de par les exécutions qu'ils peuvent réaliser en l'air et qu'un avion ne pourrait pas combattre. Donc ceci va bien sûr redistribuer un petit peu les cartes, d'autant plus que ces drones ne coûtent pas très cher à fabriquer et qu'ils sont difficilement interceptables. Donc obligatoirement, les Américains doivent se faire beaucoup de soucis aujourd'hui pour leurs installations, pour les militaires et qui sont sur place, et ils risquent de connaître de lourdes pertes dans les semaines et les mois qui viennent, puisque ces drones pourraient être utilisés d'une façon permanente. Et ceci change un petit peu la face du combat traditionnel avec des fantassins ou avec des forces aériennes. Il faut bien savoir qu'en drone, il n'y a pas de pilote, hein. Donc c'est simplement par caméra et par ondes radio qu'ils sont dirigés et qu'ils retransmettent leurs images. Donc ils peuvent faire un petit peu remplir du moins des missions qu'il est difficilement possible de réaliser avec un armement plus traditionnel. Je parle d'hélicoptères, d'avions ou même de troupes au sol. Donc ça va redistribuer les cartes également de ce conflit. Et puis, il est clair que les Américains ont de moins en moins de légitimité à travers le monde, hein, depuis quelques années maintenant. Ils sont pris également dans des difficultés financières et économiques qui sont difficilement mesurables, tellement elles sont importantes. Donc, ça va obligatoirement redistribuer les cartes. Et je pense aujourd'hui que leur présence en Irak est vraiment très compromise. Hein, d'autant plus que si les Américains aujourd'hui exploitent autant le gaz de schiste qu'ils peuvent avoir sur leur territoire, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savent très bien que leur présence en Irak dans le temps est vraiment remise en question aujourd'hui. Donc il est clair que c'est une très bonne chose pour la résistance irakienne d'avoir à disposition ces drones qui sont maintenant d'une très haute technologie.
Luc Michel, vous avez entendu les explications de Philippe Hugon qui dit que voilà, les cartes vont être redistribuées. Si j'ai bien suivi Philippe Hugon, ça est ça en fait des avantages que représentent ces drones qui sont désormais utilisés contre des bases militaires américaines en Irak. Et demain, peut-être, ils seront utilisés contre les bases américaines dans d'autres endroits et de la région. Et si j'ai bien suivi, en fait, de Philippe Hugon, le rapport de force va être totalement modifié parce que la situation, la donne a changé, Luc Michel. Est-ce de votre avis également ?
C'est beaucoup plus catastrophique que cela pour les plans de réorganisation américaine. Vous savez que les Américains, pour des raisons d'opinion publique mais aussi de coûts, sont en train d'envisager le retrait de leur armée. Bien entendu, d'Afghanistan où c'est en cours, mais aussi d'Irak. Il y a un plan de remplacement, c'est-à-dire une privatisation complète de la présence américaine dans ces deux pays. Le théoricien de ce remplacement, c'est Eric Prydz. Eric Prydz, c'est le mercenaire international, le fondateur de Blackwater, devenu conseiller de Donald Trump. Il a proposé un plan de remplacement de la présence américaine par totalement des armées privées. Quel est le modèle historique de Prydz? C'est la Compagnie des Indes britanniques. Il faut savoir qu'au 19e siècle, les Indes n'ont pas été conquises par l'armée britannique, mais par l'armée privée de la Compagnie des Indes, constituée de milices mercenaires, et ça a été la même chose à Hong Kong. Eric Prince a proposé cela en Irak et en Afghanistan. Déjà en Afghanistan aujourd'hui, il y a une supériorité, une majorité de troupes qui sont ce qu'on appelle des contractuels. Tout cela n'est possible que si ces forces mercenaires, ces contractuels, interviennent sous protection du parapluie de l'US Air Force, de l'aviation américaine et de ses alliés, notamment l'aviation française et notamment l'aviation turque. Donc on a annoncé une proposition de reprise du contrôle de l'aéroport en Afghanistan principal, donc par la Turquie. À partir du moment où il y a la guerre des drones, où la souveraineté aérienne n'existe plus au profit de l'aviation américaine, tout ce scénario occidental de privatisation de la guerre a, comme on dit, du clos dans l'œil. Et je ne parle même pas des projets de domination des marines occidentales, américaines, françaises et émiraties sur la mer Rouge.
Et Philippe Hugon, vous êtes reporter de guerre, vous connaissez en fait, vous êtes un très bon connaisseur des questions relatives, si vous voulez, aux dimensions militaires, aux armées, si vous voulez, du monde. Vous êtes autrement dit un spécialiste des questions militaires également. Comment peut-on expliquer cette impuissance d'un pays qui se considère d'ailleurs comme la première puissance militaire du monde face, si vous voulez, à ces drones qui sont utilisés contre ces bases, en l'occurrence en Irak, et ce à tel point que ce même pays, si vous voulez, dit vouloir offrir, par exemple, une récompense de 3 millions de dollars à quiconque donnerait des informations, si vous voulez, sur ces attaques au drone.
Oui, alors, moi, je crois que les Américains sont dans une position extrêmement inconfortable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Leur présence sur place est limitée, et elle est limitée également en Afghanistan, elle est limitée un petit peu de partout. Vous savez, les États-Unis sont pris dans de très grandes difficultés économiques et financières, donc c'est un pays qui va subir dans les prochaines années un effondrement financier, un effondrement économique. L'Europe sera également très très touchée par cette nouvelle crise financière qui va arriver. Donc même si aujourd'hui sur le plan militaire ils sont dépassés, eh bien ils sont dépassés également par le côté financier de l'opération, car c'est toutes ces guerres d'ingérence qui sont pratiquées par les États-Unis depuis 60 ans. Leur crée énormément de soucis financiers et ils n'ont plus aujourd'hui l'argent disponible pour financer des guerres. Alors ils financent des petites armées comme Backwater, des armées de mercenaires, c'est-à-dire des gens que l'on paye pour tuer. Ce sont des gens qui n'ont aucune conviction politique, ils ne sont pas là pour amener la paix, ils sont là dans un but de gagner de l'argent, et uniquement dans cette raison. Donc leur légitimité est vraiment remise en question aujourd'hui. Si les Américains apportaient la démocratie, la paix dans le monde, eh bien, on le serait depuis très longtemps. Les Américains, ils amènent le chaos, ils amènent la guerre, ils amènent la misère. C'est ce qui se passe dans tous les endroits du monde où ils se sont rendus, où ils sont intervenus. Donc je pense que maintenant, les États-Unis sont dans une position tellement difficile qu'ils vont être obligés de se retirer. D'autant plus qu'il y a chez eux des millions de gens dans la rue qui crèvent de faim. Aujourd'hui, ce n'est plus le rêve américain, c'est le cauchemar américain. Donc je ne serais pas surpris d'ailleurs que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, qu'on voit ce pays se fracturer en plusieurs petits États, et sous une même bannière, si vous voulez, une sorte de confédération. Mais ce pays va éclater et se divisera en plusieurs petits pays. J'en suis convaincu que ceci va arriver dans les 20 ans qui viennent, hein. Ça, c'est une certitude. Mais leur présence en Irak, comme de partout dans le monde, va devenir intenable parce qu'il y aura de plus en plus de résistance de la part des mouvements nationaux qui vont se créer et qui sont déjà créés et qui vont se créer dans d'autres pays. Donc leur présence est maintenant très, très limitée dans le temps.
Et Luc Michel, en fait, Philippe Hugon vient de soulever un point. Comme quoi, voilà, l'objectif des Américains et n'est toujours, si vous voulez, d'apporter la démocratie et la paix, mais plutôt, si vous voulez, d'amener la guerre et la misère. Vous vous en souvenez, lorsqu'il était question de cette intervention militaire contre l'Irak, du côté américain, on disait que voilà, l'objectif, on est d'apporter, si vous voulez, la démocratie en Irak et d'en faire un modèle à suivre dans d'autres endroits de la région. Mais maintenant, dans l'état actuel des choses, en fait, et culturellement parlant, du point de vue spirituel également, les Américains sont loin de conquérir les cœurs et les esprits des Irakiens qui considèrent en fait les forces américaines comme des forces occupantes. Et militairement parlant également, les États-Unis en fait se trouvent dans un état d'impuissance face à cette volonté du peuple irakien. Luc Michel, comment vous l'expliquez, s'il vous plaît?
Écoutez, les armées occidentales ont échoué partout à conquérir les esprits, les cœurs, ce qui était les buts de la guerre coloniale définie au moment des guerres d'Algérie et du Cameroun dans les années 1955-1960. Que ce soit Barkhane en Afrique, que ce soit l'armée américaine en Afghanistan, partout les armées occidentales ont échoué. Jusque-là, tout était basé sur la supériorité militaire du bloc américain occidental qui reposait sur une supériorité financière. Lorsque vous prenez le budget des 10 premières armées du monde, le budget de l'armée américaine est supérieur au double du budget de toutes les autres armées cumulées, y compris la Russie, y compris la Chine, y compris l'Inde, y compris la France, y compris la Grande-Bretagne. Le budget de l'armée américaine du Pentagone est de 700 milliards de dollars par an. Mais ce qui se passe depuis quelques années, c'est justement que cette supériorité financière ne garantit plus une supériorité stratégique. Et on voit une espèce de faillite financière de l'armée américaine. On voit un peu partout des guerres asymétriques. La guerre de drones l'illustre. La première guerre du drone, elle reposait sur la supériorité, justement, stratégique et financière américaine. C'était la guerre des drones en Afghanistan, au Pakistan, en Irak et encore au Niger, en Afrique. Pendant des années, les Américains ont dominé ce pays. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de guerre asymétrique de drones, de petites puissances, comme la Turquie, qui est une alliée des États-Unis, mais qui suit parfois son propre agenda géopolitique, mais surtout comme l'Iran, peuvent de façon asymétrique produire un bien meilleur marché que les Américains des drones et donc leur disputer la supériorité technologique. Lorsque ont été entamées il y a presque 20 ans les guerres d'Afghanistan et d'Irak, le néoconservateur qui était au pouvoir avec George Bush II aux États-Unis avait sorti un livre manifeste. C'était le chef de file des néoconservateurs Bill Gristol. Ce livre s'appelait « Notre chemin commence à Bagdad ». Ces gens expliquaient qu'ils allaient amener dans ce qu'ils appelaient le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire une zone qui va du Maroc jusqu'à l'Asie centrale, qu'ils allaient amener partout des gouvernements pro-américains, changer les gouvernements et amener ce qu'ils appelaient la fin de l'histoire avec l'idéologue Fukuyama. Tout cela a échoué. Il n'y a pas eu de fin de l'histoire. Le peuple, les cultures, les civilisations se sont dressées contre cette volonté de fin de l'histoire. Et aujourd'hui, le déclin de l'américanisme est en cours.
Merci beaucoup. Et Philippe Hugon, en fait, je viens de le dire, voilà, l'usage de ces drones en Irak a suscité un mouvement de panique, si vous voulez, du côté américain. Ce mouvement de panique s'explique-t-il, d'après vous, Monsieur Hugon, par le fait que les Américains sont inquiets de voir, en fait, ces drones être utilisés, si aujourd'hui ils sont utilisés en Irak, demain être utilisés, si vous voulez, dans d'autres endroits de la région et contre d'autres bases US qui sont nombreuses, d'ailleurs, dans la région du Golfe Persique.
Ah oui, bah, tout à fait. De toute façon, l'utilisation des drones ne va pas s'arrêter à l'Irak. Hein. C'est une utilisation qui sera utilisée d'une façon permanente par un certain nombre de forces, que ce soit des forces armées ou des forces de résistance. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le monde va vivre une ère nouvelle dans les 10 ans qui viennent, puisqu'on va avoir un effondrement financier dans les 10 ans qui viennent qui va être sans précédent. 2008, c'était une petite crise, hein, mais ce qui va arriver va être bien, bien supérieur. Donc ça va redistribuer les cartes de la stratégie de pays envahisseurs comme les États-Unis, la France ou l'Angleterre. Donc les drones vont être utilisés d'une façon permanente aujourd'hui. Et ces drones seront de plus en plus performants. D'autant plus que sur le terrain, ça change beaucoup les choses, puisque de petites unités peuvent s'équiper de petits drones. Vous savez, en France, un drone, ça vaut une centaine d'euros, et vous avez quelques kilomètres d'autonomie, vous mettez une caméra dessus, et vous voyez tout ce qu'il se passe. Donc même les petites unités sur le terrain peuvent être équipées de drones qui sont extrêmement peu chers, qui sont très bon marché, et qui sont très efficaces dans le renseignement, notamment. Donc là aussi, ça change également la donne de tout ce qui est de la stratégie sur le terrain. Donc ce n'est pas seulement qu'au niveau des drones pratiquant des bombardements ou des opérations incisives dans certaines bases militaires, mais c'est surtout sur le renseignement également que ceci peut jouer. Donc ça va modifier totalement la donne des futurs combats. Et de toute façon, je pense que les États-Unis, d'une manière générale, sont condamnés à disparaître comme elles sont aujourd'hui, parce qu'ils n'auront plus les moyens financiers de financer des opérations d'une telle importance. Et tout ceci deviendra très vite ingérable pour eux. Et ce qui laissera, bien sûr, c'est une chance pour les peuples comme les Irakiens ou les Syriens de pouvoir modifier un petit peu leur avenir et ne plus subir ce colonialisme occidental qu'ils subissent depuis de très nombreuses années.
Et en une phrase de Philippe Hugon, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que voilà, les États-Unis n'ont plus désormais les moyens de leur politique belliciste.
Ils n'ont plus du tout les moyens de leurs ambitions. Et puisque vous pouvez prendre tous les chiffres économiques des États-Unis et du monde occidental, d'une manière générale, c'est une véritable catastrophe. Donc ils ne pourront plus tenir ces positions de politique étrangère encore très longtemps. D'autant plus qu'il y a des gens qui, aux États-Unis, meurent dans la rue, et ils sont très nombreux. Et ce n'est plus acceptable de laisser des gens mourir dans la rue au XXIe siècle. Donc tout ceci obligatoirement changer la façon de penser pour les nouvelles générations de politiciens et ces jeunes électeurs qui vont arriver n'accepteront plus ces politiques d'ingérence. Il est temps qu'on laisse un certain nombre de pays tranquilles avec ça.
Merci infiniment, Philippe Hugon, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Luc Michel, qui a été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran avait commencé à construire de nouvelles centrales nucléaires en coopération avec la Russie, louant les relations étroites que les deux parties ont nouées dans divers domaines, notamment la défense, outre le secteur énergétique. Lors de la cérémonie d'inauguration des projets appartenant au ministère de l'Énergie par visioconférence, Rouhani a exprimé sa gratitude à son homologue russe Vladimir Poutine pour ses efforts visant à consolider les relations politiques et économiques entre les deux pays. Il a évoqué la construction de deux centrales nucléaires dans le cadre d'un projet commun avec la Russie et a déclaré « Nous avons de bonnes relations avec la Russie dans les domaines militaires et de défense qui ont connu un essor après les importations du S-300 de Russie. » Au cours des 8 dernières années, les relations entre les deux pays se sont développées dans divers domaines. À cet égard, je remercie de son Excellence de Vladimir Poutine, président russe, pour ses efforts, pour tous ses efforts au cours de cette période dans la dimension politique, économique et régionale, a-t-il déclaré. L'Iran et la Russie ont une coopération très importante dans le domaine de la Syrie, un partenariat trilatéral important dans le domaine de l'Azerbaïdjan et du Caucase. Nous avons également une très bonne coopération concernant l'Eurasie avec la Russie et les États membres. Concernant le régime juridique de la mer Caspienne, nous avons pris des mesures très importantes avec des pays amis dont la Russie, a souligné le président Rouhani. Le président Rouhani a en outre souligné les liens militaires de défense avec la Russie ainsi que la construction des deux centrales nucléaires. Nos relations avec la Russie se sont élargies par rapport au passé. Ces deux jours-ci également, des efforts sont déployés avec la Russie pour relancer le plan global d'action conjoint. L'accord sur le nucléaire iranien de 2015 a souligné le président Rouhani. La guerre n'est pas une solution à la crise yéménite, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné la nécessité de lever le blocus imposé au peuple yéménite et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Au cours d'une réunion qui s'est déroulée mardi dans le bâtiment du ministère iranien des Affaires étrangères, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Yémen, Griffiths, a rencontré Mohammad Javad Zarif pour discuter des différentes dimensions de la crise yéménite et des moyens permettant d'instaurer la paix et la stabilité dans le pays. Expliquant les points de vue de la République islamique d'Iran sur la fin de la crise au Yémen, Zarif a souligné la nécessité de lever le blocus imposé au peuple yéménite et de faciliter la fourniture d'une aide humanitaire à celui-ci. Déclarant que la guerre n'est pas la solution à la crise yéménite, il a ajouté « Nous ne pouvons mettre fin à la situation misérable actuelle au et Yémen que par le dialogue politique et des moyens pacifiques. » Au cours de cette rencontre, Griffiths a informé le ministre iranien des Affaires étrangères des résultats de ses entretiens avec les parties concernées sur la crise yéménite.
Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, a mis en garde les sionistes contre une guerre que Netanyahou pourrait déclencher. J'espère prier à la mosquée d'Al-Aqsa et je suis honoré d'autant d'affection exprimée à mon égard. Je resterai à vos côtés, Inch'Allah, a déclaré le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, dans un discours très attendu après des rumeurs concernant sa santé. Ce qui se passe en Palestine occupée à Quds et Al-Aqsa prouve que nous nous sommes confrontés à un ennemi idiot et rancunier qui, empêtré dans la crise, pourrait fuir en avant. Netanyahou, qui est aujourd'hui défait et qui patuge dans la crise, pourrait recourir à des options hâtives pour en sortir, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. À l'occasion du 30e anniversaire de l'inauguration de la chaîne de télévision Al-Manar, Seyyed Hassan Nasrallah a déclaré mardi 8 juin que cette chaîne avait été fondée par les partisans et les adeptes de l'imam Khomeini et que sa demeure soit au paradis. Évoquant le tout récent anniversaire du décès de l'imam Khomeini, Seyyed Hassan Nasrallah a déclaré que l'imam Khomeini avait revivifié l'esprit de la révolution contre la tyrannie et l'esprit de la révolution contre les belligérants. Les Palestiniens, quel que soit à Gaza, à Quds, en Cisjordanie et dans les territoires occupés de 1948, sont déterminés à défendre Quds et les valeurs sacrées. Il faut que l'Oumma islamique les soutienne. Nous devrons faire de sorte que toute agression contre Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale, a-t-il mis en garde. Al-Aqsa et Al-Quds relèvent de la responsabilité de toute la nation arabe islamique. Le peuple palestinien est décidé à protéger Al-Quds et les lieux saints, et c'est ce qu'il a montré dernièrement. Comme à chaque échéance, reste à la nation de prêter main forte à ce peuple. Nous, dans l'axe de la résistance, œuvrons de concert pour instaurer de nouvelles équations sur le terrain en Palestine. Le premier à avoir affiché sa disponibilité de défendre Al-Quds fut le Yémen. À sa tête, Sayyid Abdul Malik Al-Houssi. Et Ansar Allah a souligné encore le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Attaque au drone piégé contre une base US dans l'aéroport de Bagdad. Trois drones piégés ont visé des soldats américains stationnés dans l'aéroport de Bagdad. Une heure après que cinq roquettes ont visé une base aérienne plus au nord où opèrent des sous-traitants américains, indiquant un responsable de la sécurité. C'est la quatrième fois en moins de deux mois que des engins volants chargés d'explosifs sont utilisés en Irak contre des intérêts américains sur le modèle des attaques menées par les forces de Sanaa contre des cibles militaires saoudiennes. Ces attaques sont régulièrement attribuées par les États-Unis au groupe de la résistance irakienne qui réclame le retrait des forces étrangères de l'Irak. Pour les experts, le recours à cette tactique et à cette technique est le signe d'une escalade en Irak où les Américains ont déployé des batteries de défense aérienne qui interceptent souvent les roquettes, mais ne sont pas parvenus mercredi soir à intercepter qu'un seul drone. Le président français Emmanuel Macron prône un cadre apaisé dans les relations OTAN-Russie. À quelques jours du sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron, interrogé sur l'état actuel de l'Alliance, dont il avait constaté à l'époque la mort cérébrale exige une clarification stratégique de l'Alliance et appelle à construire un cadre apaisé avec Moscou. Répondant à la veille du sommet du G7 et de celui de l'OTAN aux questions des journalistes, Emmanuel Macron a appelé à mettre au clair l'orientation stratégique de l'Alliance Atlantique. Afin de le faire, elle devrait, estime-t-il, en premier lieu clarifier ses relations avec Moscou, estime le président. Je pense que l'organisation a besoin de construire un cadre apaisé avec la Russie, exigeant intraitable lorsqu'il y a des incursions, des cyberattaques, des intimidations, mais qui permet aussi de prendre en compte ce qui est la géographie de l'Europe, a-t-il déclaré. Il a d'ailleurs précisé que la Chine, deuxième grande question pour l'OTAN, ne fait pas partie de la géographie transatlantique. Le président français s'est également prononcé pour la construction d'un cadre en termes de contrôle et désarmement qui nécessite, entre autres, un dialogue avec la Russie. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la Radio Francophone Iranienne.